Gaston de Balfsovski, voyage au pays de la quatrième dimension. L'âme silencieuse. Moi qui suis parvenu depuis quelque temps déjà au pays de la quatrième dimension, j'éprouve au moment d'écrire mes souvenirs anticipés une peine étrange à les traduire en langue vulgaire. Le vocabulaire est en effet conçu d'après les données de l'espace à trois dimensions. Il n'existe pas de mots capables de définir exactement les impressions bizarres que l'on ressent lorsque l'on s'élève pour toujours au-dessus du monde des sensations habituelles. La vision de la quatrième dimension nous découvre des horizons absolument nouveaux. Elle complète notre compréhension du monde, elle permet de réaliser la synthèse définitive de nos connaissances. Elle les justifie toutes, même lorsqu'elles paraissent contradictoires, et l'on comprend que ce soit là une idée totale, que des expressions partielles ne sauraient contenir. Du fait que l'on énonce une idée au moyen des mots en usage, on la limite par là même au préjugé de l'espace à trois dimensions. Or, si nous savons que les trois dimensions géométriques, largeur, hauteur et profondeur, peuvent toujours être contenues dans une idée, ces trois dimensions, par contre, ne peuvent jamais suffire à construire intégralement une qualité, que ce soit une courbe dans l'espace ou un raisonnement de l'esprit. Et de cette différence non mesurable par des quantités, que faute de mieux nous appelons quatrième dimension, de cette différence entre le contenant et le contenu, entre l'idée et la matière, entre l'art et la science, ni les chiffres ni les mots construits en trois dimensions ne peuvent rendre compte. Au surplus, on ne se donnera point que, prenant la partie pour le tout, je désigne au cours de ce récit par les mots « quatrième dimension » l'ensemble continu des phénomènes, incorporant dans cet ensemble ce qu'on est convenu d'appeler les trois dimensions de la géométrie euclidienne. Malgré son nom imparfait, on ne saurait considérer, en effet, la quatrième dimension comme une quatrième mesure ajoutée aux trois autres, mais plutôt comme une façon plus platonicienne d'entendre l'univers, sans qu'il soit besoin pour cela de se brouiller avec Aristote, comme une méthode d'évasion permettant de comprendre les choses sous leur aspect éternel et immuable, et de se libérer du mouvement en quantité pour ne plus atteindre que la seule qualité des faits. J'aurais pu, je le sais, en écrivant ces notes, recourir comme certains philosophes à un vocabulaire de convention, forger des mots obscurs pour masquer l'insuffisance du langage courant. Mais ceci ne ferait que reculer la difficulté sans la résoudre. Je préfère donc raconter ces souvenirs de mes voyages au pays de la quatrième dimension, tel qu'il se présente à mon esprit, sans prétention littéraire, naïvement et en désordre, attendant tout de l'indulgence du lecteur, heureux seulement si je puis toucher en son esprit quelques idées endormies que personne dans notre monde n'avait pris soin jusqu'ici d'éveiller. Et tout d'abord, quelles que soient les difficultés du vocabulaire et surtout l'impossibilité où je suis de classer chronologiquement des souvenirs futurs qui échappent à toute notion de temps, je voudrais m'efforcer de retracer le chemin mental qui petit à petit, étape par étape, me conduisit au pays de la quatrième dimension. Avant tout, il convient de bien établir que le fait d'être transporté n'est pas le mot, au pays de la quatrième dimension, renverse immédiatement les notions communes que nous pouvons avoir du temps et de l'espace. C'est donc naturellement par des petits faits qui contredisent ces notions vulgaires que l'attention est attirée, peu à peu, sur la possibilité du grand voyage que notre esprit peut accomplir. Ces contradictions sont fréquentes aussi bien dans la vie quotidienne qu'à l'occasion des plus hautes recherches scientifiques. Les pressentiments nous font peur lorsqu'ils se justifient. Nous préférons expliquer les élans de votre cœur par des motifs passionnels plutôt que par les obscures aspirations de la race. Et lorsque nous parlons de sciences exactes, nous évitons, comme subversives, toutes les questions indiscrètes sur l'impossibilité où nous sommes d'expliquer la ligne courbe, le parallélisme, le mouvement et en général tout ce qui nous entoure. Le temps, sans l'espace qui le figure, est pour nous inaccessible, et l'espace ne s'explique à nos sens que par le temps que nous mettons à le parcourir. Mais, par une sorte de paresse naturelle, notre esprit évite ces contradictions, les dissimule, comme si elles constituaient pour lui un véritable danger de mort. Il faut bien le reconnaître, en effet, dans l'état actuel de notre civilisation, peu d'esprit pourrait supporter sans danger la destruction brusque ou même la dissociation des notions de temps et d'espace. Ces notions nous sont tellement indispensables que nous sentons tout aussitôt la terreur et la folie effleurer notre esprit lorsque nous abandonnons un instant ces deux béquilles traditionnelles qui lui permettent d'assurer ses premiers pas. Et cependant, nous sentons bien à chaque instant que nous sommes environnés d'un immense inconnu. Entre le monde sensible et notre conscience, nous occupons une place étrange et mal définie. Nous restons timidement blottis au fond du navire qui nous emporte au hasard des flots dans une mer inconnue. Et nous nous déclarons satisfaits si notre place demeure pour nous relativement la même entre les quatre murs de notre cabine. Si nous avions la volonté de sortir un instant de notre retraite, de jeter courageusement les yeux au dehors, il nous serait facile cependant de comprendre que rien n'est moins assuré que notre périlleuse situation dans l'ensemble des phénomènes et des idées. Peut-on trouver en effet quelque chose de plus incertain que la notion de temps qui nous paraît fondamentale? Certains faits indéniables d'avertissement psychique, de prédiction de l'avenir, mériterait cependant d'être envisagé courageusement par la science, si la science se montrait terrorisée à l'idée de sortir un instant de son petit domaine de relations connues, où les idées se font vis-à-vis en posture de mansuet, menuet. Nous admettons comme une chose toute naturelle la connaissance historique du passé. Cependant, n'est-ce pas évident que ce passé, dont nous sommes si sûrs, n'existe plus actuellement et que rien ne nous permet en conséquence de prouver son existence. Nous nous basons, pour faire cette preuve, sur des objets qui subsistent, sur des souvenirs personnels, alors que nous savons fort bien que ces témoignages matériels et ces souvenirs intellectuels ne sont en somme que des vibrations actuelles. L'avenir nous paraît inconnu parce que l'on croit que sa vision matérielle nous fait défaut. C'est, on l'avouera, un raisonnement grossier et superficiel qui ne saurait avoir de portée véritable si l'on comprend que le monde, tel qu'il nous apparaît, est lumineux parce que nous avons des yeux, sonore parce que nous avons des oreilles, solide parce que nous avons le toucher, qui n'est formé en réalité que de vibrations différentes, obscures, muettes et immatérielles au sens absolu du mot. Le passé n'est fait que de l'avenir qui est contenu dans ces mêmes vibrations. Ne pourrait-il pas être connu d'une façon tout aussi certaine si nous avions la compréhension véritable du geste total suivant lequel l'univers tout entier semble se modifier pour nos sens? Lorsque l'on est parvenu au pays de la quatrième dimension, lorsque l'on est libéré à tout jamais des notions d'espace et de temps, c'est avec cette intelligence-là que l'on pense et que l'on réfléchit. Grâce à elle, on se trouve confondu avec l'univers entier, avec les événements soi-disant futurs, comme avec les événements soi-disant passés. Le tout ne forme plus qu'un monde de formes et de qualités immobiles et innombrables, qui ne sont en quelque sorte que les lignes harmonieuses d'un même chef-d'œuvre. Sans doute peut-on discerner dans ce monde, comme dans la vie banale, les différents points de l'existence et relier entre eux des événements qui se complètent. Mais il est inutile pour cela de faire appel à la notion habituelle de temps. Les événements se dessinent à la façon des figures géométriques, ou mieux encore des lignes d'une statue de marbre. Rien ne peut avoir à proprement parler de commencement ni de fin. Il ne subsiste plus que des symboles harmonieux. On comprend dès lors combien pauvres et sans expression demeurent des mots tels que ceux-ci, « voyage au pays de la quatrième dimension ». Dans cet état d'intellectualité supérieure, « voyage » ne signifie rien. L'expression « quatrième dimension » n'est elle-même que la manifestation d'un état synthétique plutôt que l'analyse d'une quantité nouvelle. Dès que l'on est parvenu dans ce monde des idées pures, toute expression du langage vulgaire devient négative. L'esprit ne fait plus qu'un avec l'universalité des choses. Ces idées sont toutes positives, sans réaction possible. L'âme silencieuse ne s'inquiète plus des bruits du monde. Ils ne sont plus pour elle que des points conventionnels, incapables de résumer l'idée immortelle inconnue, du vulgaire et que dissimule aux yeux de tout ce voile mystérieux que l'on nomme le temps. Ces notions générales sur l'existence relative du temps ne furent point, cependant, celles qui m'apparurent tout d'abord le plus clairement. Je n'en compris toute l'étrange portée que lorsque, parvenu déjà au pays de la quatrième dimension, il me fut donné de connaître tout en même temps ce qui se passerait dans les âges écoulés et ce qui était arrivé dans les siècles à venir. Le renversement de l'idée habituelle que l'on se fait de l'espace, l'abstraction des distances que je parvins à réaliser progressivement, la découverte que je fis de la maison plate à deux issues et la façon dont je parcourus l'escalier horizontal me permirent, pour la première fois, d'abandonner définitivement notre monde à trois dimensions et de voyager en toute tranquillité dans l'inconnu.